L'ambiance est bonne et le café est bon.
Ah ça c'est vrai, on est très bien reçu.
Bienvenue nouveau compagnon.
De la musique, de documentaire, etc.
20 minutes écoute notre émission.
Attention.
Hommage spécial dédicace.
Bienvenue dans l'émission de juin 2020. Aujourd'hui, on va commencer avec Au fil du couffin, épisode 2. Puis ensuite, Jean-Pi et le bébé singe, épisode 12 de Rodolphe Orville. Puis ensuite, Politiquesque numéro 3 de moi, Alban. Et ensuite, nous allons mettre de la musique de Capello, Italo Disco, Zirgle, Obscure Waves. Et ensuite, on aura une interview pour eux venant de Pierre B. Et suivi d'un texte de Pierre qui peut ne pas être le même Pierre, qui s'appelle La lenteur aux oursins. Ensuite, on mettra une musique d'Olivier Serra, Rendez-vous. Et puis, on finira par l'épisode 39 de Néo Philomoué. Bonne écoute!
Au fil des confins, quand le téléphone portable devient micro, témoignage de confiné, une production micro-sillon.
Cette semaine, nous vous avons posé la question, pourquoi vous levez-vous le matin? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever? Voici vos témoignages.
Alors, je me lève le matin surtout pour prendre mon petit déjeuner. Mais surtout, c'est parce que la journée même est en train de commencer. Vu que je dors très peu car j'ai trop peur de délaisser ma conscience au sommeil pendant la nuit à cause de la solitude et du manque d'affection, alors pour moi, l'aube est davantage le début d'une souffrance. Cette relation à l'aube est parfaitement décrite par un poème de Sayori, Cher lever de soleil. La manière dont tu brilles à travers mes stores au matin, elle me donne l'impression que je t'ai manqué. Baisant mon front pour m'aider à me lever, me faisant frotter le sommeil de mes yeux. Es-tu en train de me demander d'aller jouer dehors? Me fais-tu confiance de souhaiter la fin d'un jour de pluie? Je regarde en haut, le ciel est bleu. C'est un secret, mais je te fais confiance aussi. Si tu n'étais pas là, je pourrais dormir pour toujours. Je pourrais dormir pour toujours. Mais je ne suis pas énervé. Je veux un petit déjeuner. Cependant, j'ai tendance à dormir un peu mieux si j'ai quelque chose à faire le lendemain, mais je dors moins bien si je dois me lever, surtout si on me demande de me lever tôt.
Qu'est-ce qui me pousse à me lever le matin? À peu près toutes les choses qui font que ma journée la veille est passée trop vite et que j'ai pas pu faire toutes les choses que je voulais faire. Donc, je dois me lever pour les faire. Je n'arrive jamais à les faire parce que la journée commence trop tard, parce que je me lève pas assez tôt le matin, de toute manière. Mais là, il est 6h du matin, vendredi 17 avril 2020, et il est trop tôt pour se lever de toute façon, alors je vais me recoucher. Je vais sûrement me réveiller très tard, mais de toute façon, le matin, c'est jusqu'à midi. Donc, voilà, ça résout pas mal de problèmes. Bonne nuit.
Donc, ici c'est Arnaud. Alors, moi, ce qui me pousse à me lever le matin, c'est le fait de... C'est un peu difficile parce que, étant donné que je n'ai rien à faire de particulier dans la journée, je n'ai pas d'obligation. Je n'ai pas d'obligation de me lever non plus, comme je n'ai pas d'obligation dans la journée. Donc, je me couche très tard, voire trop tard, à des heures impossibles, et je me lève très tard aussi, sauf exceptionnellement aujourd'hui, j'ai essayé de me lever vers 11h. Donc vous imaginez un peu ce que ça doit être les autres jours. Mais bon, ensuite, qu'est-ce qui me pousse à me lever le matin? Eh bien, le fait d'essayer de remplir la journée. Parce que rester au lit toute la journée, c'est pas une bonne chose. Et ensuite, parce que ben, il faut bien garder un certain rythme, même si celui-ci est très élastique en ces temps de confinement. Donc je me lève, donc je fais comme plus ou moins comme tous les jours, hein, je me lave, je prends un petit déjeuner, je me lave, je mange, je m'habille. Enfin, je m'habille d'abord et je mange ensuite. Lol. Et ensuite, après, j'avoue, je traîne, je flémarde, et puis je fais rien de particulier, je regarde des choses sur ordinateur, je participe à certaines émissions de Micro-Sillon, à certains CA, réunions sur Skype, voilà, et je prends des coups de fil des autres, de mes amis, de mes relations. Voilà, après, qu'est-ce qui me pousse à me lever le matin? Le fait d'essayer d'être actif un minimum. Après, il m'arrive de sortir une fois par semaine quand j'ai besoin de faire des courses. Voilà. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que ça vous conviendra. Au revoir et merci.
Micro-Sillon.
Chers amis, bienvenue dans l'histoire de Jean-Pi et le bébé singe, une histoire racontée en 25 épisodes par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand, paru en 1963 aux éditions Hachette. Cette histoire, entièrement enregistrée sur bande magnétique, a été réalisée avec une musique sur pick-up stéréo tourne-disque. Petit détail, à l'écoute si vous entendez un récurrent, c'est qu'il s'agit bien d'une fabrication artisanale. C'est le raccord de bande cassette. Réalisé en 1985 et remasterisé en 2018, de 63 à 2019, 56 ans plus tard, l'histoire est toujours là. Résumé général. Comment Jean-Pi, ayant récupéré par hasard un petit chimpanzé, est appelé à le faire adopter, non sans mal, par les habitants du pays des enfants. Aujourd'hui, épisode numéro 12. De nouveau, les langues se délient. Résumé de l'épisode précédent, Babylas n'ayant pas eu ses bananes, s'est échappé de la maison de Jean-Pi. Catastrophe ! Quelle nouvelle bêtise va-t-il encore faire sous prétexte de se chercher un butin ?
Que les enfants sont groupés devant les portes et autour de la fontaine. Ils bavardent avec animation. Tout le monde semble inquiet. De nouveau, les langues marchent. Moi, je l'ai vu, affirme une fillette. Une boule toute noire avec des yeux de feu et une fourche rouge à la main. Il m'a volé deux pommes sur ma table, dit Mirabelle. Le temps de me retourner, il n'était plus là. Mais moi, je les ai reçus sur la tête, tes pommes, s'écrie Frimousset, un gros garçon de 10 ans qui travaille comme homme d'équipe à la gare. Je me rendais ce matin à mon travail, quand tout à coup, j'ai failli être assommé. Tout cela n'est rien, j'ai dit le pharmacien. On a ravagé mon grenier et même mon arrière-boutique. Oh là là! Théodore, le pharmacien, est un petit bonhomme de 8 ans, aux cheveux bien peignés, aux yeux bleus cachés par d'épaisses lunettes. Il porte toujours une grande blouse blanche. Il est d'un caractère plutôt morose. Il gêne sans cesse. Voit la vie en noir et répète inlassablement « Oh là là !»«
Le catastrophe !» déclare-t-il. « Oh là là ! Ce démon est entré par la lucarne de mon grenier. Il a tout mis en l'air. Il est descendu dans l'escalier. Oh là là ! Il m'a cassé en bois 10 fioles dans mon laboratoire.
poison ? Dirait le Claude en frémissant. Eh ben heureusement que je n'en ai pas chez moi ! Répond le pharmacien. Dans les pharmacies pour enfants, pas de produits dangereux ? Oh là là ! Si j'en avais, ce serait du propre ! En effet, Théodore ne vend que des remèdes de tout repos. Boule de gomme, sucette vitaminée, eau oxygénée, sparadrap ou coton. Mais il y a quand même un petit laboratoire où il s'amuse à faire des expériences. Tifiole cassé, répète-t-il. Et il m'a volé un long entier, sucette vitaminée. S'il les mange, ce monstre, ça va lui donner encore plus de vigueur. Quelle catastrophe, oh là là. En apprenant cette histoire de chapardage, Reine Claude et Mirabelle retournent vite à leur confiserie pour veiller sur leur stock de bonbons. D'autres enfants s'approchent. Il semblerait que ce fameux monstre ait déjà visité plusieurs maisons. Invisible, insaisissable, rusé, il s'est glissé partout, multipliant les mauvaises farces, volant ceci, cassant cela. Cela ne peut plus durer, déclare le pharmacien. Que fait le maire? Que font le commissaire et le garde champêtre? Nous ne sommes donc pas protégés. Les enfants approuvent. Encouragés, Théodore poursuit. Il faut mobiliser tout le monde! Il faut monter la garde nuit et jour! Oh là là! Il nous faut des armes! Des armes, proteste Jean-Pierre, tu es fou! On ne donne pas d'armes aux enfants! Même les revolvers des motards sont en plastique!
C'était Jean-Pi et le bébé singe, raconté par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand. Chers auditeurs, pour la suite, rendez-vous le mois prochain, même heure, même fréquence. En attendant, gardez votre âme juvénile. À bientôt!
Débat, atelier.
C'est micro-sillon.
L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat.
Le micro-sillon.
Mais qu'est-ce que c'est que la politique?
C'est vrai ça, qu'est-ce que c'est que la politique?
Qu'est-ce que?
Épisode me. Vote aux sanctions.
Ça alors? Bah zut! Faudrait que je vote la prochaine fois. Mais pour qui? Si je vote à droite, ils vont emmerder le monde. Si je vote à gauche, ils vont emmerder le monde. Et si je fais vote de sanctions, alors si ça le part, deux populistes vont être élus et ils vont emmerder encore plus le monde.
Eh oui, Nyoron.
Ça me rappelle quand j'ai fait ma fille. Je l'ai faite pour qu'elle soit heureuse. Et v'lan, ce soir, elle manifeste. Ah! Mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là?
Le vote est censé donner une impulsion à gauche ou à droite. Ainsi, un politique de gauche sera davantage critiqué qu'un politique de droite s'il fait des trucs de droite.
D'où les manifestations.
Eh ouais, tu vois, c'est la politique à deux vitesses. Les politiques ne vont dans le sens du peuple que quand le peuple leur gueule et leur court dessus une fois.
Au moins, notre constitution nous permet officiellement ce droit, ce qui a permis à notre démocratie de subsister et à notre peuple d'éviter la dictature. Mais notre démocratie...
Elle a des gros problèmes quand même. L'ascension fulgurante de Macron à la tête d'un parti datant de seulement quelques mois était très suspecte.
Ça, je peux le dire. Plutôt que de voter pour les autres candidats alors que les éléphants de gauche et de droite étaient entourés dans des affaires de corruption.
Tiens, salut Maëlys. T'as assez pour une conso?
Oh oui, tiens. Un thé au nom.
Ok.
Il y a eu aussi le grand appel de Chevènement et son parti de semi-extrême gauche. Il aurait dû gagner, mais tout le monde a voté Macron.
Et pourtant... Hé, hey, qui a voté Macron? Hein? Levez la main. T'es, tu vois, personne ici. Je connais personne qui ait voté Macron.
Comment est-ce que... Oh non, il n'aurait pas osé.
Je suspecte que si. Surtout avec le résultat des législatives. Malgré un total désaccord avec le peuple qui a voté massivement contre Macron, il a pratiquement eu la victoire au premier tour.
Plus on vote contre lui, plus il y a de votes.
En plus, Macron est unique dans le sens où, vu qu'il n'est officiellement situé nulle part, et qu'en plus il a la majorité à l'Assemblée, il peut faire ce qu'il veut et il est hors de contrôle.
Ouais, il peut faire passer n'importe quoi en 49-3. Il y a un problème dans la séparation des pouvoirs aussi.
49-3 ?
C'est un article de loi qui permet un vote direct de l'Assemblée. Si la proposition venant du président passe, elle passe. Mais si elle ne passe pas, alors le président démissionne.
Waouh ! Donc en clair, le président peut faire passer quelque chose rapidement. On risque d'être viré ?
C'est l'intention.
Mais ça marche pas, comme tu vois, tu vois.
Maintenant, les députés sont forcés d'obéir à la ligne de leur parti sous peine d'être virés. Donc les députés LREM, en majorité, sont obligés de suivre Macron.
Donc Macron a tous les pouvoirs ?
Et il fait n'importe quoi.
Et donc, il y a les gilets jaunes.
L'or arrivé, sublime, fastral, comme une torche salée, me brûlant la peau, en écoutant microsillon.fr.
Retrouvez chaque mois nos émissions sur votre radio préférée, Micro-Sillon, la radio qui dit une radio, mais il y a aussi plus que des mots. Micro-Sillon, débat, parole, partage, savoir-faire de la radio. Ici, Micro-Sillon, il y a le café qui est bon aussi, Open Café. Venez manger un morceau, et ça vous donnera la pêche. Et venez tuner à la radio. Micro-Sillon.free.fr. Nous sommes diffusés dans une dizaine de radios. FMR Booster, La Locale, Bigès et Boomerang. Et sur notre site internet, venez nous voir, 5 avenue François Collignon, au quartier des Raisins. Vous prenez la ligne 27 et vous y êtes. Ici, il y a la création sonore et il y a aussi des fou rires aussi. Vous pouvez venir faire des ateliers aussi. Sillon, plus que des mots, une radio. Nous sommes diffusés aussi sur Radio Mon Pays 90.1 à Toulouse.
Bonjour Alison, cette association, pour eux, est-ce que tu pourrais nous la présenter en quelques mots ?
C'est un mouvement qui s'est lancé d'abord au niveau national à Paris et à Lyon pour aider les sans-abri en leur livrant des repas préparés par tout un chacun. On l'a lancé à tout début avril. C'est un mouvement qui est lié au confinement. On s'est rendu compte que les sans-abri souffrent encore plus de la situation parce que plusieurs associations ne pouvaient pas continuer leurs activités comme ils pouvaient le faire avant et que donc les sans-abri souffrent encore plus du confinement que les autres. Et donc l'idée, c'est de mettre en place un mouvement très, très simple à faire tourner. On prépare un repas à emporter chez soi, on remplit un formulaire en ligne, et là, il y a un livreur qui va passer le prendre en respectant les distances et les gestes barrières, et qui va aller le livrer en faisant un tour à vélo au sans-abri qui peut trouver.
Tu dis que c'est né à Lyon, c'est quelque chose de très spontané et qui s'est structuré facilement.
Oui, voilà, on est peut-être une petite dizaine à gérer la page Facebook, le besoin des livreurs, parce que les livreurs sont aussi des citoyens qui demandent à participer au mouvement et à qui on donne une attestation professionnelle pour pouvoir se déplacer au-delà du kilomètre autorisé. Et qu'on forme aussi justement pour avoir bien un masque, des gants, respecter les distances et savoir aussi où tourner pour trouver les sans-abri. Derrière, il n'y a pas d'autres structures que quelques outils informatiques, comme notamment une application qui permet aux livreurs de voir où un repas est disponible et de dire bah, « moi, je vais le chercher et je vais l'amener ».
C'est des gens qui ne se connaissaient pas avant qui se sont regroupés. Pour certains, ils n'avaient jamais été actifs dans ce genre d'initiative.
Absolument, oui. C'est un mouvement très spontané. On peut faire un repas juste une fois et l'amener. Bon, les livreurs, il y a un petit peu plus d'engagement puisqu'il y a un peu de formation derrière. Mais sinon, c'est vraiment ouvert à tout un chacun, sans obligation. C'est ce qui fait que je pense que le mouvement fonctionne si bien et il a pris dans beaucoup de villes en France. Donc à Lyon, à Paris, à Lille, à Rouen, à Montpellier, à Bordeaux et donc à Toulouse et même en Belgique, à Bruxelles. Alors en fait, le mouvement donc, a été lancé par Alan Ballester à Lyon. Donc celui qui a l'habitude de travailler avec les personnes de la rue, il avait déjà créé un site pour les aider dans leurs besoins au quotidien. Et donc c'est lui qui a obtenu une autorisation qui est donc transmise au livreur, autorisation professionnelle pour assistance à personnes en difficulté. C'est la seule structure, je dirais, avec les outils informatiques qui sont mis à notre disposition, comme par exemple une application qui permet de voir où sont les repas.
Il y a bien, à la base, un noyau de personnes qui étaient militantes dans le champ social, et à la faveur de ces nouvelles circonstances, leur initiative a pris beaucoup d'ampleur, si je comprends bien.
Oui, c'est ça. ça. Et même si après, le schéma qui proposait, donc de préparer des repas, de les faire livrer, l'attestation et l'application, ça, ça a été repris dans les différentes villes par des personnes qui ne sont pas forcément issues de milieux associatifs. Et donc, par exemple, à Toulouse, ça a été lancé par Muriel Levaillant. Elle travaille dans l'accompagnement de start-up, moi aussi. Et donc, on ne fait pas du tout partie du milieu associatif, mais face à la crise, on a eu envie de se rendre utile et de participer un petit peu à l'effort collectif. Pour les bénéficiaires, ça va être assez variable. On a des hommes, des femmes. On livre aussi de temps en temps dans les hôtels où justement les sans-abri ont pu être logés. On essaye de livrer aussi là où il y a des campements. Donc c'est vraiment les gens de la rue, donc un public très varié. On fait un peu moins les squats. Là, ils sont plus pris en charge par d'autres associations et on va livrer quelques repas. Et donc c'est pas assez égalitaire. Un gros squat avec une centaine de personnes, là on peut pas livrer tout le monde en même temps et donc on fait vraiment nous plutôt voilà, un peu au cas par cas.
Vous avez combien de repas à peu près? C'est très variable ou il y a une habitude qui s'instaure et du coup des chiffres un peu réguliers?
Ouais, des chiffres plutôt réguliers, on en est à plus de 200 repas par jour. Depuis le début du mouvement, on a livré 7434 repas et on a formé 110 livreurs. Au fur et à mesure, les sans-abri nous ont évoqué d'autres besoins, notamment en termes d'hygiène, d'avoir des lingettes, de pouvoir avoir du savon, ce genre de choses. Donc, c'est des choses qu'on ajoute aussi dans les paniers. On a aussi créé un panier qui s'appelle Pour Elle. Et là, on peut mettre plutôt des protections hygiéniques ou même un peu de maquillage. Comme il y a moins de monde dans la rue, c'est plus difficile pour faire la manche. Et également, comme je disais, il y a certaines banques alimentaires, épiceries confirmées. Pareil pour la distribution de vêtements, on sait que c'est compliqué. Il y a un besoin. Il y a plein d'associations qui continuent et qui ont trouvé un fonctionnement avec le confinement. Nous, on va apporter un petit truc différent, c'est que c'est des petits repas faits maison. Souvent, les personnes qui les cuisinent, elles rajoutent un petit mot. Et donc, il y a une chaleur humaine et un lien qui se crée, qui est à apprécier des personnes de la rue, apprécier des personnes qui participent au mouvement, parce que ça fait plaisir de se sentir utile et de voir qu'on a apporté quelque chose. Dans la période qu'on est en train de vivre, c'est aussi important. Les différentes personnes qui participent au mouvement, ça fait vraiment partie de la volonté de se lancer dans cette aventure, que d'être utile, on applaudit le soir les soignants à nos fenêtres, mais la question qu'on se posait, c'était comment est-ce que nous, on peut apporter aussi notre aide. On est rentré en relation avec plusieurs associations, déjà parce que on connaissait pas bien le monde de la rue. On est en contact plus particulièrement avec le Secours catholique, avec Utopia 56, avec Féminité sans-abri et avec La Cloche. Nous, on arrête de faire des maraudes après 18h parce qu'on se rend compte que c'était plus difficile, que la crise était moins facile au niveau des sans-abri, et que là, ça nécessite d'être un peu plus formé. On arrête à 18h et quand il nous reste des repas, on va pouvoir les amener, donc soit au Secours catholique, soit à Utopia 56. Pareil, les kits hygiéniques, on va pouvoir les amener à Féminité sans-abri. Et La Cloche, par exemple, nous a proposé plusieurs formations pour savoir comment être respectueux avec les personnes qu'on va rencontrer dans la rue. On réfléchit tous à faire durer ce mouvement, même si on aimerait bien aussi pouvoir conserver la simplicité d'exécution et peut-être aussi d'engagement. On aimerait bien que ça puisse rester comme quelque chose qu'on peut faire de temps en temps.
Est-ce que, pour terminer, tu as envie de faire passer un petit message aux auditeurs, sachant que, malheureusement, pour des raisons qui tiennent à notre façon de fonctionner, il va falloir que ta parole soit diffusée peut-être après le début du déconfinement. Mais peut-être que tu as un message à faire passer pour les auditeurs.
Mais je pense qu'on va vraiment poursuivre le mouvement même après la fin du confinement, et on sait que les personnes dans la rue seront toujours là, que la crise économique qui s'annonce derrière va aussi rendre les choses difficiles pour plus de monde. Et donc je pense que le mouvement a toujours du sens, et que plus on sera nombreux à de temps en temps faire un repas ou de temps en temps aller livrer, et plus on pourra faire durer le mouvement. Mon message, ce serait de poursuivre cet élan de générosité.
Bien, merci Alison pour ce témoignage, pour l'association Pour Eux et Pour Elles, qui nous invite tous à nous mobiliser à notre mesure à travers des initiatives qui prennent un petit peu des formes nouvelles, mais pour des besoins absolument fondamentaux et qui n'ont rien de nouveau. Merci beaucoup.
Merci.
Y a-t-il autant de radios qui utilisent des souffles comme jingle ?
Aucune idée.
Microsillon.free.fr.
J'ai ralenti sans le vouloir, au croisement des oursins. Parce que soudain, le soleil frappait assez fort pour me demander de m'asseoir un moment. Et surtout, j'avais quelques épines dans le pied. À vrai dire, ma formation était finie depuis longtemps, à l'école. Là-bas, j'avais appris à aller vite. Aller vite, c'est bien. C'est ce que j'avais alors sommairement déduit. Et puis aussi, je préférais le métro, par exemple. Et puis, j'avais occulté beaucoup de traces de la lenteur. Celles qu'elle vous laisse dans le comportement, en guise de palimpseste. Alors, ralentir, je le faisais contraint. Des épines dans le pied. Au soleil. La mer était proche. Elle s'était retirée. J'étais ouvert. C'est-à-dire que soudain, il y avait de la couleur. La lumière, c'était déjà pas mal. Mais bon, la lumière, on le sait, ça sert aussi à colorer le monde. En physique, ça marche comme ça. D'ailleurs, la nuit, plus de couleur. Et là, c'était du vert. J'aurais aimé plus de couleurs. Il ne me restait plus qu'à chercher les nuances. Ça tombait bien, j'avais le temps. Je n'étais plus pressé. Si l'angoisse avait un prénom, ce n'était pas celui de la lenteur. J'avais beau chercher, lent, je l'étais devenu par hasard. Ralenti. Et comme le hasard est plus fort que moi, j'arrêtais de maudire les oursins. Colère et lenteur ne font pas bon ménage. J'avais déjà fait divorcer les deux. À cloche-pied. À un carrefour étrange et dépourvu de panneaux. Vite ou lentement, je n'y trouvais aucun indice de chemin à suivre. Lentement, j'avançais. Mais au moins, j'avais moins mal. Et puis, consciemment, je rêvais plus haut, plus fort. Plus disposé à regarder vers le ciel. À me priver de l'inconnu météorologique. C'est-à-dire que je savais le temps qu'il faisait. Les nuages, en effet, avaient passé les derniers jours à défiler sans que je ne les remarque. Maintenant, je les voyais s'étirer, paresseux, ralentis aussi. Il ne me restait plus qu'à m'enlever patiemment quelques épines du pied.
Attention, 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 attention.
Et pourquoi est-ce que j'ai toujours de l'électricité statique ?
Électricité !
Maintenant, je sens que je suis en train de me transformer en Zelda.
Oh ! Purée de électricité ! Mais c'est pas possible, y'a un problème ou quoi ? Ok, j'ai des pics de saturation lorsque je suis électrocuté. C'est bon à savoir.
Salut tout le monde, je suis Olivier Serra. Mon pseudo, c'est ElectroLive. Je vous présente mon nouveau morceau. Il s'appelle Rendez-vous. C'est un morceau électro ambiante au début. Et ça, c'est punchy. Et c'est à la fois gay et mélancolique. Parce qu'on sortait du confinement quand je l'ai réalisé. Et c'était un état où j'étais assez joyeux. Et à la fois un peu, comment dire, c'était inquiétant un peu parce que je savais pas où on allait et dans quelle situation on allait se confronter, à quelle situation on allait se confronter. Voilà le changement et j'espère que vous apprécierez et que vous pourrez prendre plaisir à l'écouter. Allez, ciao.
Mais quelle est cette salle bizarre? Ce siège a un gros champignon en cocon dessus.
Bonjour.
Oh, ça bouge! C'est vivant et ça parle!
Bienvenue à Microsillon. Vous êtes des nouvelles adhérentes?
On aurait peut-être dû regarder la fiche sur la porte.
Les filles n'ont jamais été aussi sexy ou mignonnes en fait, vêtues de néophiles au mouet. Épisode zobumeux, la masculinité égarée. À l'épisode précédent, j'ai dénoncé que même la mode féminine est faite pour faciliter les viols, et donc la perpétuation d'une culture basée sur eux. Il est donc généralisable que si le féminin est le pôle universel de la création, le masculin serait le pôle universel de la destruction. Mais, premièrement, le féminin est le sexe par défaut, par la structure même des chromosomes, XX étant un ordre naturel et XY semblant être comme un hotfix de mère nature. Et deuxièmement, si les forces de création et de destruction avaient la même puissance, la création ne pourrait pas être supérieure et être favorisée par la nature. Et troisièmement, surtout, malgré le fait que le féminin est le sexe par défaut, il faut des efforts et donc une maturité considérable pour procéder à l'acte de création. Or, l'acte de destruction est infiniment plus facile et immature que celui de création et ne nécessite pas plus d'efforts pour apprendre. Il faut le dire maintenant, dans l'Oedipe, ce n'est pas le père mais l'enfant qui tue la mère. Un enfant qui a grandi, certes, mais toujours un enfant dans sa tête. Donc le masculin n'est pas le pôle universel de la destruction, car la destruction n'est pas aussi compliquée que la création. Le masculin est le pôle universel d'autre chose. Ça, je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore identifié ni appris, à moins que si. Cela prouve que si le monde d'amour que l'on est en train de construire, les femmes ont leur place, les hommes, eux, n'en ont pas une. Nous avons tellement passé de temps à faire la guerre et la compétition que quand il est temps de faire des choses matures, nous n'avons aucune idée de quoi faire. Sommes-nous d'éternels enfants incapables de maturer? Forcés à passer tout notre temps à écouter nos mères et autres femmes matures pour rester bien sages? Bien sûr que non. Il faudrait regarder quelles sont les choses que les hommes feraient mieux que les femmes. Le problème est qu'il faudrait prouver ses supériorités sans passer par les biais phallocratiques de nos sociétés. Car aucune société moderne n'est assez matriarcale pour faire briller la résistance et le talent des hommes autant que nos sociétés patriarcales font briller la résistance et le talent des femmes de nos jours. Il nous faudrait donc attendre la révolution mondiale pour répondre à cette question. Bien sûr, on peut toujours assumer des choses comme « les hommes sont meilleurs à la logique » et d'autres non-sens comme ça. Mais cela signifierait que les hommes seraient phallocrates par nature, ce qui est peut-être logique mais contradictoire car... Comme on l'a déjà dit, la société phallocratique repose sur le contrôle, et donc la destruction par l'isolement des principes créatifs. Donc la société phallocratique est immature par nature, elle ne convient pas à des hommes matures ayant dépassé cette nature. Les ordinateurs sont de meilleurs phallocrates que les hommes. Les hommes peuvent être parasités par la non-logique et les approximations en relation avec les principes de tolérance de la pensée féminine, mais l'ordinateur ne comprendra jamais que le binaire, car son entre guillemets cerveau est construit ainsi. C'est ainsi que les idées pernicieuses du système tirent leur solidité renouvelée de l'entêtement infini des ordinateurs. Ces deux choses, ainsi que la réponse renouvelée à cet entêtement par une puissance féminine largement supérieure, ont d'ailleurs conduit à la disparition du stéréotype de l'homme macho. Désormais incapable de prouver sa force sans faire preuve d'immaturité face à la large majorité des femmes matures, désormais les seuls phallocrates restants sont des idiots en costard-cravate ressassant les inepties que le système fait ressasser aux ordinateurs, continuant leur schéma obsolète, entre guillemets, parce que l'ordinateur a toujours raison car il est infiniment logique et on l'a programmé pour ne dire que la vérité, donc il ne peut dire que des choses raisonnables. Et, pour la même raison, rendant obsolète la large majorité des arguments de ceux qui opposent le système à cause de l'influence du paradigme de la raison pure sur la population, car les ordinateurs incarnent cette raison pure, cette quête phallocratique du savoir infini et instantané. Donc que va-t-on faire, nous pauvres hommes qui avons perdu notre raison d'être dans les inepties infantilisantes de nos sociétés rationalistes et bornées? Peut-être que nous devrions rester sages comme les adolescents que nous sommes et attendre quelques années, que le monde et la société changent et nous montrent la voie à suivre de lui-même à travers le filtre de la vie renouvelée. Nos compagnes méritent bien les câlins qui nous feront grandir. On a fini la partie principale de la philosophie mouée et on commencera les annexes le mois prochain.
L'émission est terminée. Au revoir. On se retrouve.
Rendez-vous le mois prochain.
Chrono.